J'ai fait un certain nombre d'années de séminaire, j'envisageais d'être prêtre à l'époque. Les dogmes, moi, ça ne m'a jamais satisfait, j'ai toujours eu besoin de comprendre, et donc j'ai voulu interrompre ces études-là pour faire de l'anthropologie. Et l'anthropologie, c'était 6 ans, et à l'époque, il y avait la possibilité d'avoir un métier en 6 ans qui s'occupait des êtres humains, c'était la médecine. En tout cas, c'est ce que je croyais, et donc je me suis inscrit en médecine, avec cette idée de réfléchir sur l'être humain. Là, c'était un peu le choc, parce que je suis passé d'une dimension religieuse à une dimension, j'allais dire, mécaniste. Je suis tombé sur une conception de l'être humain comme une machine avec des pièces détachées qu'on peut remplacer. Et donc ça m'a largement insatisfait. Du coup, pendant le même temps, j'ai fait des études d'acupuncture. J'ai fait quelques certificats de sciences pour essayer de comprendre les choses du côté mécanique. Et puis, j'ai continué la théologie. J'ai fait une licence de théologie à Cato. Et du coup, tout ça a mélangé. À un moment donné, j'ai même pas pu envisager de faire une carrière universitaire où j'avais les compétences. Parce que vraiment, la façon d'aborder les gens à l'hôpital me paraissait complètement inhumaine, en fait. Et au bout de 15 jours, dans un service hospitalier, pendant les études, je m'ennuyais vraiment. Ma femme me disait, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Et donc, je me suis installé comme médecin généraliste en me disant, ben là, au moins, on va voir des êtres humains. Et comme ce qu'on nous avait appris en médecine, c'était surtout à faire des diagnostics, c'est-à-dire mettre des gens dans des cases et puis leur trouver un médicament adapté à la case en question, j'ai cherché. Et donc, j'ai écouté les grands-mères m'en parler de la pomme de terre dans la poche pour les rhumatismes, m'expliquer qu'avec un saumon de Marseille dans le lit, on retirait les crampes. Et puis, à l'époque, j'ai découvert l'argile, j'ai découvert le jeûne par des livres. Puis, j'avais lu le livre de Mon Destrex, Vivre en harmonie. C'était un des prix que je sors de la naturopathie. Tout ça m'a fait que j'ai commencé à soigner les gens de façon extrêmement simple. Et je me suis aperçu que ça marchait très bien. Je me suis retrouvé avec une clientèle pléthorique, en fait. J'ai eu l'une des plus grosses clientèles de la région. Et en même temps, en plus, j'ai mis au point des techniques de soins qui me paraissaient intéressantes, notamment la chromothérapie. Ça, c'est des choses que j'ai développées. Les traitements par les couleurs et par la lumière, et les traitements par de la musique, avec une technique qui s'appelle l'holotsonie. Et puis, en même temps, j'ai rencontré des gens, c'est comme ce qui se passe à ce moment-là, qui m'ont appris beaucoup de choses. Je me suis mis à faire des irrigations coloniques, la lavage de l'intestin. J'ai accompagné des gens en jeûne. Je me suis mis à utiliser les champs magnétiques pulsés, à utiliser Lakowski, à utiliser Bolderjack, à apprendre certains types de massages énergétiques, thaïlandais, taoïste. Et puis finalement, ça n'a pas plu du tout au conseil de l'ordre, qui m'a remercié de mes bons et de nos services. Donc j'étais radié parce que je faisais des irrigations coloniques et des traitements par la musique modifiée. Et en plus, j'avais été obligé de créer une société pour fabriquer du matériel de traitement. Et là, j'ai été accusé de faire du commerce. Donc maintenant, il n'y a pas trop de lien entre les médecins et le commerce. Enfin, ça se saurait. Il faut prendre ça avec beaucoup d'humour. Et en fait, le fait qu'il m'ait radié du conseil de l'ordre, ça m'a rendu un immense service parce que ça m'a obligé finalement à développer une approche de la santé non médicale. Et on a mis au point, en plus de ces techniques qui étaient déjà au point, on a mis au point avec mon épouse un concept de cure de quelques jours où on met en synergie différentes techniques thérapeutiques qui agissent sur tous les plans en même temps. C'est-à-dire que physique, c'est facile, c'est pas la médecine fait ça. Alors avec les massages et les éducations coloniques, on faisait ça. Sur le plan vibratoire avec la chromothérapie, sur le plan psycho-émotionnel avec notamment l'holopsonie. Et puis on aidait les gens à prendre conscience de ce qui se passait, qu'est-ce qui a pu déclencher ça. Et puis à ressentir qu'est-ce qui se passe en eux, qu'est-ce qui est important pour eux. Et enfin, à leur aider à trouver du sens dans leur maladie quand on s'occupait de malades. Mais aussi trouver du sens dans la vie quand ils venaient juste pour se faire du bien.
Qu'est-ce que vous appelez trouver du sens?
Du sens, c'est par rapport à la conception non décrite en médecine actuellement et qui est véhiculée par les médias, le transhumanisme. Cette conception, elle dit que l'être humain, c'est un animal en évolution à la Darwin, à partir de la cellule, etc. Et la conscience est une évolution de la matière à la Darwin aussi. Et on peut remplacer tous les organes, y compris la conscience, qui peut être remplacée par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est conception qui n'a jamais été dite, mais c'est vraiment ça qui est instillé dans les têtes des étudiants en médecine. Alors, comme j'ai fait médecine pour faire de l'anthropologie, j'ai passé ma vie à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on était venu faire sur cette planète. Et toutes mes expériences m'ont permis d'élaborer une façon d'aborder la vie qui donne du sens. Qu'est-ce qu'on fout sur cette planète, en gros? Est-ce qu'il y a un objectif à la vie, ou est-ce que c'est simplement, boum, on est arrivé comme par hasard, par le jeu des mutations génétiques, ou par je ne sais quoi? Et donc, actuellement, je me suis fait ma petite idée, qui résonne d'ailleurs dans la tête de pas mal de gens, c'est que le transhumanisme oublie une chose. Dans les organes, au milieu du corps, c'est le cœur. Et le cœur, c'est quoi? C'est l'amour. Et donc, j'ai mis en lien un petit peu tout ce que j'avais vu en théologie et en physique quantique avec Einstein, qui a écrit à sa fille avant de mourir que l'énergie fondamentale de l'univers, dans sa formule mathématique E égale à MC2, en fait, c'est l'amour. Donc, lui, il disait ça. On ne peut pas trop dire ça aux physiciens pour l'instant. Mais en rapprochant ça de la physique quantique, où finalement la matière s'est faite de 99,99% de vide, ce vide n'est pas du vide, en fait. On peut pas. Maintenant, il parle d'énergie du vide. Et moi, je pense aujourd'hui que ce vide, qui est finalement l'essentiel dans l'univers, c'est une espèce de matrice au sein de laquelle tout est possible. Et ce que Einstein parle d'amour infini, certains parlent de Dieu, c'est cet espace, c'est même pas le mot, enfin, c'est cette dimension, cette réalité dans laquelle tout est possible. Et la conscience, c'est ce qui permet à cet amour infini de s'exprimer d'une multitude de façons différentes. Et alors aujourd'hui, je dis, nous sommes une parcelle hologrammique de la conscience universelle qui prend corps pour expérimenter l'amour dans la matière. Et alors, toute mon approche de la chromobiologie, de la chromothérapie et de l'holopsonie m'ont permis d'avancer dans ce sens-là. Parce qu'en fait, en chromothérapie, on travaille sur la structure vibratoire, ce que les Indiens appellent l'aura. Cette structure vibratoire, elle comprend entre autres trois enveloppes énergétiques, c'est une espèce de trois bulles concentriques, qui correspondent d'ailleurs aux trois couleurs fondamentales lumière, et qui fonctionnent comme une forme de conscience. Par exemple, si on approche un produit, c'est facile à percevoir les enveloppes, à la main, avec le pouce, enfin, ça c'est des techniques qu'on apprend. Eh bien, si on sent une enveloppe et qu'on approche un produit de l'enveloppe, si le produit est bon pour la personne, l'enveloppe s'élargit en regard de l'endroit où on présente le produit. S'il n'est pas bon pour la personne, l'enveloppe se rétrécit en regard de l'endroit où on présente le produit, et d'autant plus que l'impact du produit sur la personne est important. Et non seulement ça fonctionne comme ça, mais on n'a pas besoin du produit, qu'on a vraiment une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer. Et David Bohm, un neurophysiologiste américain, disait que le corps physique c'était de la lumière condensée, donc comme la glace et l'eau. Moi j'ajoute, c'est de la lumière condensée à partir du corps vibratoire. C'est-à-dire que cette conscience, elle se densifie par les enveloppes énergétiques et par l'aura, et à partir de là, grâce à la lumière et aux couleurs, va se densifier un corps physique. C'est ce que disait David Bohm. Et donc chaque partie du corps correspond à une couleur, chaque organe correspond à une couleur, et chaque organe répond à un besoin dans le corps. Et donc la symbolique des couleurs, la symbolique des organes et les besoins fondamentaux, c'est équivalent. Et comme c'est le corps vibratoire qui génère et qui gère le corps physique, en tout cas c'est ma conviction, hein, c'est comme si la couleur fonctionnait comme une nourriture pour le corps vibratoire. Et comme toute nourriture physique, quand on est bien centré, une nourriture que l'on aime bien nous fait du bien et correspond à un besoin. La couleur, c'est pareil. La couleur qu'on aime bien correspond à un besoin et nous fait du bien. Et donc on a développé à partir de la symbolique des couleurs lumière, puisque les couleurs lumière, la symbolique est universelle, toute une approche de comment se connaître, j'aime les couleurs, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, comme la couleur est une nourriture, on a trouvé le moyen de choisir les couleurs les plus adaptées à une personne, la quantité de couleurs, l'endroit où on la place, les couleurs, la durée d'exposition, avec beaucoup de précision, dans une relation patient-thérapeute, dans un cheminement, dans une relation patient-thérapeute. Puisque la structure vibratoire, c'est une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer. On peut lui demander, finalement, quelle couleur tu veux que je te passe, quel endroit, sur quelle enveloppe, en fonction de l'autre où on est, de là où j'en suis, et du chemin qu'on peut faire ensemble.
Est-ce que ça peut évoluer ou est-ce que c'est toujours la même couleur?
C'est jamais la même couleur.
Jamais, hein.
Le vivant, c'est en permanence en évolution. Et donc, le fait de développer cette chromothérapie m'a permis de confirmer cette idée qu'on était issu de la conscience et densifié grâce à la lumière. Et la notion d'hologramme, je disais, on est une parcelle hologrammique. En fait, c'est des traitements par la musique qu'on appelle l'holopsonie, que j'ai mis au point, qui m'a permis de valider ça. L'holopsonie, on fait un test d'écoute. Hein. Et dans ce test d'écoute, on mesure le seuil d'audition des gens. On s'aperçoit qu'ils ont toujours des pics d'hypersensibilité à certaines fréquences et des creux d'hyposensibilité à d'autres fréquences. Et ces pics et ces creux correspondent à une partie du corps dans son expression physique ou symbolique. Donc ça valide le fonctionnement hologrammique du corps. Alors le traitement derrière, on fait un traitement en miroir. C'est-à-dire qu'on fait écouter de la musique qui est découpée en tiers d'octave. On filtre les pics, on augmente les creux, on fait une bascule grave aiguë et on arrive à effacer les pics et les creux. Et là, c'est comme si on détricotait les nœuds que les gens sont tricotés, avec souvent une remontée à la conscience de souvenirs des événements qui ont été mal vécus, symbolisés par l'organe qui souffre, sur lequel on a trouvé un pic ou un creux qu'on a effacé. Donc ça, cette méthode-là, elle m'a appris deux choses. La première, c'est qu'on gardait en mémoire, au moins dans un organe d'essence, mais sûrement dans tous les organes d'essence, les informations de notre histoire. La deuxième, c'est qu'on n'est pas objectif, puisque la façon d'entendre varie avec ce qu'on a vécu. Et la troisième, ça valide le fonctionnement hologrammique. Donc, c'est pas deux, c'est trois choses. L'holographie, c'est une technique photographique. On prend en photo un objet avec une technique laser. Quand on projette le cliché, on retrouve l'image de l'objet en relief. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si on prend un morceau du cliché, quelle que soit sa taille, quel que soit l'endroit où on le prend, si on le projette dans les conditions de la prise de vue, on retrouve toujours une image de la totalité de l'objet. On baisse en relief si on diminue la taille et on change de point de vue en fonction de l'endroit où on prend l'objet. Et bien c'est pareil pour le corps, il fonctionne comme un hologramme. C'est-à-dire que tout le corps est dans l'œil, dans l'oreille, dans le nez, dans la main, dans le pied, etc. Ça c'est connu puisque les Chinois ils font de l'iridothérapie, il y a l'iridologie, il y a les massages des mains, les massages des pieds, etc., l'acupuncture. Donc chaque partie du corps contient des informations de la totalité et donne accès à la totalité. Et j'ai extrapolé ça, c'est vrai dans l'infiniment petit, c'est vrai sur la cellule, on sait très bien, chaque cellule contient des informations de la totalité. On peut descendre encore plus bas d'ailleurs. Là ça va devenir un peu compliqué parce que comme la matière c'est très peu de choses par rapport à l'ensemble de la réalité, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est quand même intéressant. Et par contre, si on remonte dans l'infiniment grand et qu'on considère notre cerveau comme un objectif photographique, ça fait de nous un hologramme d'une dimension qui est de l'autre côté, et si ça fonctionne toujours de façon hologrammique, ça fait de nous un hologramme de l'univers. C'est-à-dire que le sens de notre vie, c'est on est une façon d'être de l'univers dans un niveau d'existence. On est une façon pour Dieu de prendre corps, si on veut le faire de façon religieuse. Et on a la responsabilité de ça. Donc comme l'essence même de l'univers, c'est l'amour, on a la responsabilité de notre façon de créer de l'amour sur la Terre. Et faire ça sens, c'est ça. C'est réaliser que tout ce que j'ai à vivre sur la Terre, c'est simplement transformer tout ce que je vis en expérience d'amour. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de dire c'est bien ou c'est pas bien. Il peut y avoir des événements positifs ou négatifs, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc la question à se poser, pour moi, c'est en quoi ce que j'ai vécu me permet aujourd'hui, à moi et aux autres, d'être plus créateur d'amour, c'est-à-dire d'aller vers plus d'autonomie, de liberté, de responsabilité, de créativité, de respect de moi-même, des autres et de la planète. Et pour le respect de moi-même, des autres et de la planète, on a une grille de lecture qui est celle de la symbolique des couleurs.
Comment voyez-vous l'avenir ?
Moi, je pense que nous sommes dans une période de mutation profonde. Je pense qu'on peut remercier des gens qu'on considère peut-être comme des ennemis, à savoir les Schwab, Soros et compagnie. Ça, je partage l'avis notamment de Perron. Parce qu'en fait, ils nous obligent à faire des prises de conscience et à nous reprendre en main. Et c'est ce qu'on observe de plus en plus. On sent qu'il y a des gens qui réalisent qu'il faut la tête qui se remue un peu parce que c'est pas les autres qui vont penser pour eux. Ma société s'appelait la chrysalide. La chrysalide, c'est après la chenille, on passe dans un chaos. Mais dans le chaos, il y a déjà les germes du papillon. Et on est dans cette période-là. On est vraiment plein dans la chrysalide et on sent plein de germes à l'intérieur qui sont en train d'émerger. D'ailleurs, c'est un petit peu l'intérêt des réunions comme les foisonnantes. Il faut que chacun amène sa pierre en fonction de ce qu'il est, là où il est. Moi, là, actuellement, compte tenu de mes expériences de 40 ans dans le domaine de l'approche globale de la santé, je lance l'idée de participer à la création d'un réseau santé global, travailler sur la santé, non pas sur la maladie. Et je pense que ça peut se développer. D'ailleurs, tous ceux qui sont intéressés par la démarche, ils peuvent m'envoyer un mail, enfin me contacter, et puis on va construire avec cela. Là, on va essayer de faire une réunion avec Thaddy Brochard qui réunit beaucoup de gens pour commencer à lancer quelque chose, parce qu'il faut jouer sur des tas de domaines en même temps. Moi, c'est la part que je suis prêt à amener, c'est former les gens, leur montrer qu'on peut faire des choses très simples et ça peut être très efficace.